va déguster sur France Inter.
Je piège Dominique Hutin. Le premier jour de son retour, c'est pas très sympa. Il peut pas faire sa chronique puisqu'il a la bouche en feu à cause de la Ndouya. Comment va-t-il s'en sortir? Suspense.
Eh ben écoutez, je vais me raccrocher au bras. Je vais faire comme je le peux. Je vais vous plagier, voilà. Je vais vous piquer le mot rouge parce que la cuisine rouge, je vais répondre par un vin rouge. C'est pas très original. Vino rosso, on peut dire comme ça.
Il a les cordes vocales en flamme.
Je vais vous parler de Dominique le vigneron.
Ah. L'autre?
L'autre, voilà, je vais devancer vos sarcasmes. Il ne s'agit pas de moi, mais de Domenico, qui est un vigneron calabrais. Et du coup, cette chronique va entrer un petit peu en résonance avec la cuisine, la rusticité aussi, que vous avez invité un peu dans la conversation. Puisqu'on va s'approcher d'une viticulture ancienne, familiale. On est dans une zone qui n'est pas une toute petite zone, puisque c'est la taille du Roussillon pour nous en France. Mais en revanche, en termes de notoriété, on parle là du petit poussé de l'Italie, quasiment même le mal-aimé. Je dis le mal-aimé parce qu'il n'est pas rare que des importateurs fassent l'impasse sur la Calabre.
Ah, carrément.
Oui, voilà. Ah, oui. Pire, des guides du vin, il y en a un qui vient juste de sortir, tout fraîchement, la semaine dernière, qui fait l'impasse, lui aussi, sur la Calabre.
Et comme cette forme... si cette région n'existait pas, était rayée la carte, quoi.
Ben, voilà. Oui, c'est une négation absolue que les vignerons, il faut bien le dire, n'ont pas tout à fait réussi à enrayer. Et d'ailleurs, c'est un parent pauvre au sens premier du terme, et à cet endroit, vous allez nous illustrer peut-être avec une petite phrase, un dicton calabrais.
Oui, que meglio vino maledetto qu'acqua santa.
Et vous traduisez.
Mieux un vin maudit que de l'eau bénite.
Mieux vaut un vin maudit que de l'eau bénite.
Très bien. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose d'assez étonnant, parce qu'on le disait tout à l'heure qu'il y avait une situation au littoral, une ouverture naturelle de commerce sur l'arc méditerranéen. Eh ben non. La Calabre viticole ne jouit pas d'un périmètre international, comme par exemple l'image des vins de Toscane qui, absolument, eux, ont trouvé leur public. Il s'agit là d'un vin de l'intérieur, c'est-à-dire un vin qui est produit et qui plutôt se consomme sur place. Alors il y a deux manières de voir les choses. Soit vous êtes pessimiste, auquel cas vous allez dire « oui, ben voilà, c'est le parent pauvre de la viticulture », ou alors vous êtes optimiste, auquel cas vous allez dire « mais finalement, c'est une valeur de découverte ». Évidemment, c'est la voie que moi j'ai choisi d'emprunter. Et puis, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, parce que si Calabria rime avec terra incognita, eh ben s'il n'est pas dans les radars des grands amateurs, il y a quand même un contraste assez fort, c'est son passé. Pourquoi ? Parce que la Calabre viticole peut s'appuyer sur une très riche histoire. Elle est riche à ce point que le vin vedette qui s'appelle Rico, dites-le à ma place, je crois que ce sera mieux.
Non, la prononciation était bonne.
C'est ça ?
Oui.
Ah oui,
Chiro.
D'accord,
Chiro. Oui, c'est beaucoup
on était
mieux
loin.
Quand même.
Chiro.
J'étais à l'envers. Eh bien, ce vin, c'est celui qui était servi au vainqueur des Jeux Olympiques. Donc voilà, il jouissait d'un lustre tout particulier. Et puis surtout, en 1500 avant Jésus-Christ, la région s'appelait Œnotrie, le pays du vin. Les habitants, les œnotres. Œnotre comme œnologue, œnophile, etc., etc. Donc voilà, on s'appuie sur quelque chose de très fort, les cultivateurs du vin qui portent deux notions. Une région, le vin on l'a dit, et puis cultivateur, une espèce d'économie domestique et naturelle. Ce qui laisse penser que les viticulteurs locaux pensent que moins un vin est transformé, meilleur il est. Donc j'ai amené une bouteille pour l'illustrer, ça s'appelle Unu, le domaine c'est Nasiri. Nasiri, ça veut dire naître ou quelque chose d'approchant, vous corrigez.
Je suis en train de naître.
Voilà, et bien en fait c'est vraiment une renaissance, parce que Domenico donc, et Francesca, sa compagne, ont mené d'autres carrières dans l'architecture, dans l'économie, et puis se sont repliés sur le domaine pour mener ce travail agricole, et au final on est quand même plutôt dans l'idée d'une ferme. Voilà, 20 hectares, 7 hectares qui sont dévolus aux olives, 7 hectares qui sont dévolus aux vignobles, et puis d'autres petites productions
bien,
qui
la
sont...
polyculture.
Polyculture, exactement. Et bien alors surtout, ce qui est important à relever, c'est que les cépages, évidemment, sont autochtones, et évidemment, ils soulignent les origines grecques de cette région, cette influence majeure de la Grèce, jusque dans les cépages. Donc, et en l'occurrence, ça c'est un 100% gréco. Nero.
Ah, gréco, ça sonne grec, effectivement.
Greco, absolument.
Les influences grecques sont très importantes en Calabre.
Voilà. Absolument, oui.
Alors, tout ça, c'est vinifié en cuve d'acier, c'est affiné pendant 3 ans. Et puis, vous doutez que je n'ai pas fait 8 heures de train pour vous parler d'un vin industriel. Là, on est dans la biodynamie, évidemment. Ce vin parle le langage du vin naturel, c'est-à-dire ni contrôle de température, ni sulfite ajouté, ni fût de chêne et ni appellation. C'est un vin de table, au final. C'est l'équivalent d'un vin de table. Et cette bouteille, finalement, qu'est-ce qu'elle symbolise? Elle symbolise l'endroit où elle est née, parce que cette bouteille est traversée parce que porte la montagne qui est toute proche. Aussi parce que cette bouteille est traversée par la proximité de la mer, donc la fraîcheur. Parce que cette bouteille aussi, elle est traversée par le soleil, vous l'avez senti. 320 jours de soleil par an, c'est quand même une des régions les plus ensoleillées d'Europe. Et puis cette bouteille, elle est aussi traversée par ce qui est resté de l'histoire. le cépage Greco Nero. Et puis cette bouteille est traversée par ce que sont les gens là-bas, jusqu'au point d'être traversée par le quotidien du XXIe siècle, avec, bah, il faut le dire, l'ombre de la mafia. Alors c'est un sujet que l'émission ne suffirait pas à épuiser, donc pour en savoir plus, je vous invite à m'envoyer un email à françoisregisgaudry@jeanmaire-de-la-mafia. Et si vous, si ça vous est plus pratique, .com. Je peux même vous donner une adresse physique si vous le préférez. Voilà. Alors pour ce vin, dernière chose, le mode d'emploi. Première chose, si vous êtes à un resto à Paris, vous allez chez Vino Nostrum. Vous allez chez Retro Bottega, qui sont des endroits qui tiennent un petit stock de bouteilles de Calabre. Deuxième chose, un salon, bientôt au mois de décembre, qui va nous parler de tous ces producteurs italiens, dont notre ami qui sera présent physiquement. Toutes les infos sont sur le site, donc je ne les égrène pas. Et puis, il y a une troisième possibilité, c'est si vous nous écoutez de Calabre, eh bien, vous allez à l'extrême pointe de la Calabre, un bled, je ne peux pas le dire autrement, moins de 1900 habitants, Caldetto, et là-bas, on y tient la Festa del Maiale.
Est-ce qu'on appelle ça la fête du cochon.
Et donc, le cochon, vous allez le cuisiner comme vous l'entendez, la pancetta, bon, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous engage à le cuire au barbecue. Et pourquoi ? Simplement parce que le barbecue ne cuit qu'à la braise.
Oh, le haut niveau. Vous avez bien fait de revenir, Dominique.
N'est-ce pas ?
Ça me plaît beaucoup. Bravo. Une petite idée du budget. On est dans des prix raisonnables.
Celui-ci, il a trouvé son public hexagonal. Donc, il est à 18 euros dans les restaurants. Donc, c'est un prix resto avec coefficient.
Bien sûr.
Évidemment, si vous allez en Calabre, vous allez trouver des vins avec des prix éminemment plus humbles.
Nacieri, cuvée Unu et toutes les références de Dominique Hutin sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.